Nous explorons le monde avec la bouche. Nous faisons alors la connaissance de germes utiles ou qui nous sont bien adaptés. Au fur et à mesure, nous acquérons ainsi de plus en plus de micro-organismes jusqu'à abriter non plus quelques centaines de bactéries différentes, mais des centaines et des centaines de genres différents. Pour un zoo, ce serait une sacrée performance. Aujourd'hui, nous savons que les tout premiers habitants de notre ventre sont des éléments déterminants pour l'avenir de notre corps tout entier. Sur ce point, les études mettent surtout en évidence l'importance pour le système immunitaire des premières semaines de notre existence quand nous occupons notre temps à collectionner des bactéries. Sur la base des produits métabolisés par nos bactéries intestinales, on peut déjà, 3 semaines à peine après notre naissance, prédire un éventuel risque accru d'allergie, d'asthme ou de dermatite atopique. Mais comment se fait-il que nous accueillons si tôt des bactéries qui nous sont plus nuisibles que bénéfiques? Un bon tiers des enfants nés dans les pays industrialisés occidentaux vient au monde par césarienne en toute élégance. Pas de chair meurtrie dans la filière pelvienne, pas d'effets secondaires peu ragoûtants comme la déchirure du périnée ou l'expulsion du placenta. Tout cela a l'air bien propre et bien joli. Ce avec quoi les enfants nés par césarienne sont en contact au tout premier moment de leur vie, c'est principalement l'épiderme d'autres êtres humains. Pour ce qui est de leur flore intestinale, ils doivent grappiller ici et là puisqu'elle n'est pas contrainte par les germes spécifiques de leur mère. Au programme, il peut donc y avoir un peu du pouce gauche d'Elisabeth, la gentille infirmière, un peu du fleuriste qui a tendu à papa le bouquet de roses ou un peu du chien de papy. Certains paramètres annexes deviennent soudain déterminants, comme la motivation de la femme de ménage sous-payée de l'hôpital. Aura-t-elle soigneusement nettoyé le combiné téléphonique, la table et la robinetterie de la salle de bain? Ou aura-t-elle manqué d'entrain ce jour-là? Notre flore cutanée n'est pas aussi strictement régulée que la filière pelvienne, et elle est bien plus exposée au monde extérieur. Tout ce qui a eu la fantaisie de venir s'installer là pourrait bientôt se retrouver dans les intestins du bébé. Des agents pathogènes, mais aussi des individus moins repérables qui vont proposer au jeune système immunitaire des exercices farfelus. Chez les enfants nés par césarienne, il faut attendre des mois ou plus avant que la population bactérienne de l'intestin se normalise. Les 3/4 des nouveau-nés qui attrapent des germes typiques du milieu hospitalier sont des enfants nés par césarienne. Ils ont, en outre, plus de risques de développer des allergies ou de l'asthme. Une étude américaine a montré que la prise de certains lactobacilles pourrait faire à nouveau baisser le risque d'allergie chez ces enfants. En revanche, le bénéfice est nul chez les enfants nés par voie naturelle. Ils sont, pour ainsi dire, tombés dans la potion magique de probiotiques dès la naissance. À partir de l'âge de 7 ans, plus rien ne distingue la flore intestinale des enfants nés par césarienne de celle des enfants nés par voie naturelle. Les phases précoces pendant lesquelles le système immunitaire et le métabolisme peuvent être influencés sont d'ailleurs révolues elles aussi. La césarienne n'est bien sûr pas le seul paramètre qui va compliquer la formation d'une équipe de choc dans l'intestin. Une mauvaise alimentation, le recours inutile aux antibiotiques, trop de propreté ou trop de rencontres avec de vilains germes peuvent aussi y contribuer. Il n'y a pourtant pas de quoi s'inquiéter outre mesure. Les gigantesques êtres vivants que nous sommes ne peuvent tout simplement pas contrôler tout ce qui est de l'ordre de l'infiniment petit. Chapitre 15. Le petit peuple. En matière de microbiote, l'être humain est considéré comme adulte à l'âge de 3 ans. Dans un intestin, être adulte signifie savoir ce qu'on aime et comment on fonctionne. À partir de là, certains microbes intestinaux entament une expédition au long cours à travers notre vie. C'est nous qui donnons le cap. Selon ce que nous mangeons, selon nos phases de stress, selon que nous entrons dans la puberté, sommes atteints d'une maladie ou allons sur nos vieux jours. Si vous publiez des photos de votre dîner sur Facebook et vous étonnez qu'aucun de vos amis ne commente votre chef-d'œuvre, sachez-le. vous vous êtes tout simplement trompé de public. Sur un Facebook microbien, 1 million d'abonnés applaudiraient votre cliché à tout rompre ou frissonneraient de peur. Les possibilités qui s'offrent à nous chaque jour sont variables à l'infini. Lundi, deux petits ouvriers cachés dans le sandwich au fromage vont nous aider à digérer le lait. Mardi, c'est une équipe de salmonelles tapis dans le tiramisu. Mercredi, nous modifions parfois notre flore intestinale, et parfois, c'est elle qui nous modifie. Nous sommes son climat et ses saisons. Et elle peut nous soigner comme nous empoisonner. Nous sommes loin de savoir tout ce dont est capable le petit peuple intestinal de l'être humain adulte. Pour ce qui est de l'abeille, nous sommes déjà mieux renseignés. Au fil du temps, les abeilles qui se sont imposées sont celles qui étaient dotées des bactéries intestinales les plus variées. Et si elles ont pu évoluer à partir d'ancêtres guêpes carnivores, c'est uniquement parce qu'elles ont accueilli de nouveaux microbes intestinaux capables de produire de l'énergie à partir du pollen. Voilà comment l'abeille est devenue végétarienne. Quand la nourriture vient à manquer, de bonnes bactéries veillent. En cas d'urgence, une abeille est aussi capable de digérer des nectars inconnus provenant de régions lointaines. Les intestins monotaches, eux, seraient nettement désavantagés. En temps de crise, on voit en outre rapidement qu'ils disposent d'une armée de microbes efficaces. Les abeilles dont la flore intestinale est bien pourvue résistent mieux que d'autres à certains fléaux parasitaires. Quand il s'agit de survie, les bactéries intestinales jouent un rôle de tout premier plan. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous contenter de transposer ces résultats à l'être humain. Les êtres humains sont des vertébrés et ils utilisent Facebook. Pour obtenir des réponses concrètes, il nous faut donc repartir de zéro. Les scientifiques qui s'intéressent à nos bactéries intestinales doivent comprendre ce monde encore presque complètement méconnu et le mettre en relation avec notre monde à nous. Il leur faut découvrir qui vit dans notre tube digestif et comment. Alors, on remet ça, cette fois dans le détail. Mais qui sont-elles ? Le biologiste aime les choses bien ordonnées. Et l'on peut ordonner la terre comme on met de l'ordre dans son bureau. Pour commencer, on fourre tout dans deux grands tiroirs. Le vivant dans un tiroir, le non-vivant dans l'autre. Et on continue à trier. Dans le tiroir du vivant, on range selon trois catégories. Les eucaryotes, les archées et les bactéries. Les trois catégories sont représentées dans notre intestin et chacune a son charme. Première grande catégorie, donc, les eucaryotes. Ce sont ceux qui ont les cellules les plus grosses et les plus complexes. Ils peuvent être multicellulaires et atteindre des tailles respectables. La baleine est un eucaryote. Les êtres humains aussi. Tout comme les fourmis d'ailleurs, même si elles sont bien plus petites. La biologie moderne divise les eucaryotes en 6 groupes. Les amibozoaires, qui se déplacent en remuant. Les êtres dotés de pseudopodes, c'est-à-dire de pieds qui n'en sont pas. Les chlorophylliens. Les unicellulaires dotés d'un cytostome, une zone creusée qui leur sert de bouche, les algues et les opisthocontes. Pour ceux à qui le terme d'opisthoconte ne dirait pas grand-chose, il vient du grec « derrière » et « bâton flagelle ». Et s'il a été choisi pour désigner ces organismes, c'est parce que leurs cellules sont propulsées par un flagelle. Dans ce vaste groupe, on recense tous les animaux, y compris l'homme, mais aussi les champignons. Quand votre chemin croise celui d'une fourmi, rien ne s'oppose donc, du point de vue de cette classification, à ce que vous la saluiez d'égal à égal. Dans l'intestin, les eucaryotes les plus courants sont les levures, qui sont aussi des opisthocontes. Nous connaissons bien sûr la levure de boulanger, mais il existe encore beaucoup d'autres sortes de levures. Deuxième grande catégorie, les archées, qui sont un peu un mix des deux autres catégories. Ce ne sont pas de vrais eucaryotes, mais pas des bactéries non plus. Leurs cellules sont petites et complexes. Cette position un peu floue ne fait pas d'elles des tièdes pour autant. Au contraire, la catégorie des archées, c'est l'inverse du juste milieu. Elles aiment les extrêmes. Citons par exemple les hyperthermophiles qui ne se sentent dans leur élément qu'à plus de 100 degrés Celsius, et emménage volontiers à proximité des volcans. ou encore les acidophiles, qui prennent leur bain dans des acides à forte concentration. Il y a aussi les barophiles, ou piézophiles, qui aiment qu'on leur mette la pression. Ils la trouvent par exemple au fond des mers. Ou encore les halophiles, qui ne jurent que par des milieux très salés, comme la mer morte. Parmi elles, les rares à accepter de vivre dans les conditions pas vraiment extrêmes qu'offre un laboratoire sont les archées cryophiles, qui aiment le froid. Elles ont un faible pour les congélateurs à moins 80 degrés Celsius. Dans notre intestin, on trouve souvent un autre genre d'archée qui se nourrit des déchets d'autres bactéries intestinales et peut produire une luminescence. Ce qui nous permet de revenir à nos moutons, ou plutôt à nos bactéries. Les bactéries constituent 90% de notre population intestinale. Pour mettre un peu d'ordre là-dedans, nous avons recours à un peu plus de 20 souches. Ces groupes ont parfois autant de points communs entre eux qu'un être humain et un organisme unicellulaire doté d'un cytostome. C'est-à-dire, pas beaucoup. Nos bactéries intestinales sont issues pour la plupart de 5 souches. En première ligne, Bacteroidetes et Firmicutes, suivi d'Actinobacteria ou Actinomycètes, Proteobacteria, Proteobactéries, et Verrucomicrobia. À l'intérieur de ces souches, on divise et classifie encore en diverses sous- et subdivisions jusqu'à arriver à une famille de bactéries. Dans une famille, on se ressemble quand même assez. On mange les mêmes choses, on a à peu près la même tête, on a des amis et des compétences qui se ressemblent. Les membres d'une famille ont des noms aussi faciles à retenir que Bacteroides uniformis, Lactobacillus acidophilus ou Helicobacter pylori. Le royaume des bactéries est immense. Quand on cherche certaines bactéries déterminées chez l'être humain, on finit toujours par découvrir quantité d'autres espèces inconnues. Ou des espèces connues à des endroits inattendus. En 2011, sans autre prétention que celle de s'amuser un peu, des chercheurs américains ont étudié la flore du nombril. Dans le nombril de l'un des participants, ils ont trouvé des bactéries qu'on ne connaissait jusqu'ici que du littoral japonais. Or, le sujet en question n'était jamais allé en Asie. La globalisation, ce n'est pas seulement quand le bistrot du coin se transforme en McDonald's. C'est aussi ce qui se passe jusque dans nos nombrils. Chaque jour, des milliards de micro-organismes font le tour de la planète en avion sans payer un seul centime. Chaque être humain a sa petite collection de bactéries bien à lui, à partir de laquelle on pourrait même établir une empreinte bactérienne de chacun d'entre nous. Si on faisait un prélèvement sur un chien et qu'on analysait les gènes de ces bactéries, on pourrait très certainement retrouver son maître. Le même processus est d'ailleurs aussi valable pour un clavier d'ordinateur. Les objets avec lesquels nous sommes en contact régulier portent notre signature microbienne. Chacun de nous possède quelques exemplaires singuliers que quasiment personne d'autre ne possède. Dans l'intestin, c'est un peu la même chose. Comment les médecins pourraient alors savoir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas? La singularité est toujours problématique pour la recherche. Quand la question se pose de connaître l'influence des bactéries intestinales sur la santé, nous ne voulons pas entendre « Eh bien, vous n'allez pas le croire, mais Monsieur Martin, par exemple, il a un drôle de microbe asiatique et tout un tas d'espèces étranges comme ça !» Ce que nous voulons, c'est reconnaître des modèles et en déduire des faits. Quand les scientifiques se retrouvent face aux milliers de bactéries différentes qui peuplent nos intestins, ils se retrouvent aussi face à cette question. Est-il suffisant de définir grossièrement des souches ou serait-il préférable d'observer individuellement chacune des bactéries qui nous apparaissent sous l'uniforme bactéroïde? E. coli et sa dangereuse jumelle EHEC font par exemple partie de la même famille. Les différences sont minimes, mais néanmoins perceptibles. E. coli est un sous-locataire banal dans nos intestins. EHEC provoque des hémorragies et d'importantes diarrhées. Par conséquent, il n'est pas toujours sensé d'étudier les bactéries sous forme de souches ou de familles quand on s'intéresse aux dégâts qu'une bactérie peut provoquer à elle seule. Les gènes de nos bactéries. Les gènes sont des possibilités, des informations. Les gènes peuvent nous imposer quelque chose, comme ils peuvent nous proposer une compétence. Les gènes, surtout, sont des plans. Ils ne peuvent rien tant qu'ils n'ont pas été lus et utilisés. Certains de ces plans sont inévitables. Parmi eux, ceux qui décident si nous sommes destinés à devenir un être humain ou une bactérie. D'autres peuvent être repoussés pendant longtemps, comme les tâches de vieillesse. D'autres encore sont donnés, mais ne se réaliseront jamais, comme une forte poitrine. Tant mieux dans certains cas, et dommage dans d'autres. Ensemble, nos bactéries intestinales ont 150 fois plus de gènes qu'un être humain. Cette énorme compilation de gènes est appelée, comme on l'a vu auparavant, microbiome. Si nous pouvions choisir 150 êtres vivants qui nous donneraient un peu de leur patrimoine génétique, lesquels choisirions-nous? Certains songeraient à la force du lion, aux ailes d'un oiseau, à l'ouïe des chauves-souris ou au petit mobilhome des escargots. S'approprier les gènes de bactéries est nettement plus pratique et pas seulement pour des raisons optiques. On peut les avaler en toute simplicité. Elles développent leurs compétences dans notre ventre et s'adaptent déjà à nos conditions de vie. Personne n'a besoin en permanence d'un mobilhome d'escargot. Personne n'a besoin en permanence d'assistants de digestion du lait. Ces derniers disparaissent peu à peu après le sevrage. À l'heure actuelle, nous ne sommes pas encore en mesure de considérer dans leur ensemble tous les gènes des bactéries intestinales. Mais quand nous savons qu'ils existent, nous sommes déjà capables de rechercher certains gènes précis. Nous pouvons par exemple mettre en évidence ces faits. Chez un nourrisson, il y a plus de gènes actifs permettant de digérer le lait maternel que chez un adulte. Ou encore, l'intestin de sujets en surpoids abrite souvent plus de gènes bactériens dédiés à la dégradation des glucides et celui de personnes âgées, moins de gènes bactériens contre le stress. Nous savons aussi que les intestins de Tokyo sont capables de décomposer les algues marines, tandis que ceux de Châtillon-sur-Seine sont moins doués pour ça. Nos bactéries intestinales délivrent des renseignements approximatifs sur notre identité. Jeune ou vieux, bien en chair ou mince, fan de sushi ou pas. En outre, les gènes de nos bactéries intestinales délivrent aussi des renseignements sur nos compétences. Pour certaines personnes, les antalgiques à base de paracétamol sont plus toxiques que pour d'autres. Des bactéries intestinales fabriquent une substance qui influe sur la capacité du foie à éliminer la toxine médicamenteuse. C'est donc notre ventre qui dira si nous supportons ou non le cachet contre le mal de tête. Prudence aussi quand il s'agit de conseils nutritionnels. L'effet protecteur du soja, censé faire rempart contre le cancer de la prostate, les maladies vasculaires et les problèmes osseux, est aujourd'hui confirmé. Plus de 50% des Asiatiques en profitent. Mais cet effet protecteur tombe à 25-30% quand il s'agit de la population occidentale. Les différences génétiques n'expliquent pas cette disparité. Ce qui fait la différence, c'est un certain type de bactéries. Elles sont plus souvent présentes dans les intestins asiatiques et chatouillent le tofu et ses acolytes jusqu'à ce qu'ils livrent leurs essences les plus saines. Pour les scientifiques, c'est formidable de pouvoir isoler certains des gènes bactériens responsables de cet effet protecteur. Ils répondent ainsi à la question « Comment les bactéries intestinales influent-elles sur la santé ?» Mais cela ne nous suffit pas. Nous voulons comprendre les choses dans leur ensemble. Quand nous observons comme un tout les gènes bactériens connus jusqu'ici, les petits groupes génétiques dédiés au traitement des antalgiques ou des produits à base de soja passent au second plan. Et finalement, ce sont les ressemblances qui prédominent. Chaque microbiome se compose de nombreux gènes permettant de décomposer les glucides et les protéines et de fabriquer des vitamines. Une bactérie compte en général quelques milliers de gènes et il y a jusqu'à 100 billions de bactéries par intestin. Les premières analyses de notre génome bactérien ne peuvent pas être représentées dans des diagrammes à barres ou des camemberts. Les premiers schémas des chercheurs qui étudient le microbiome tiennent plus de l'art contemporain que du tableau à trois colonnes. La science a avec le microbiome un problème que connaît bien la génération Google. Quand nous posons une question, 6 millions de sources nous répondent en même temps. Nous ne pouvons pas nous contenter alors de dire « Chacun à votre tour, s'il vous plaît ». Nous sommes contraints de former des groupes judicieux, de faire du tri radical et d'identifier les motifs récurrents. En 2011, la découverte des trois entérotypes a marqué un premier pas dans cette direction. À Heidelberg, en Allemagne, des chercheurs armés des techniques les plus récentes avaient entrepris d'étudier le paysage bactérien. Ils s'attendaient à trouver le tableau classique, un mélange chaotique de tout un tas de bactéries auxquelles s'ajoute un gros grumeau d'espèces inconnues. Le résultat fut surprenant. En dépit d'une grande diversité, l'ordre règne. Dans chaque pays intestinal, c'est toujours l'une des mêmes trois familles bactériennes qui règnent. Et tout à coup, cet énorme jeu des 1000 familles en pagaille nous paraît beaucoup plus ordonné. Les trois types d'intestin. Pour savoir à quel type d'intestin on appartient, il faut savoir quelle famille de bactéries représente la plus grosse partie de la population. Nous avons au choix trois familles, qui portent les doux noms de bactéroïdes, Prevotella et Ruminococcus. Les scientifiques ont mis en évidence ces entérotypes chez des Asiatiques, des Américains et des Européens, sans distinction d'âge ni de sexe. La répartition en entérotypes permettra peut-être à l'avenir de déduire de l'appartenance à tel ou tel type d'intestin un certain nombre de propriétés comme l'assimilation du soja, la solidité des nerfs ou le risque d'être touché par une maladie ou une autre. Au moment de cette découverte, des représentants de la médecine traditionnelle chinoise se sont rendus à l'Institut de Heidelberg dans l'idée de faire un lien entre leurs enseignements ancestraux et la médecine moderne. Depuis toujours, la médecine traditionnelle chinoise classe en effet l'être humain en trois catégories selon sa réaction à certaines plantes médicinales comme le gingembre. Les familles de bactéries de notre corps présentent des propriétés différentes. Elles scindent la nourriture de différentes manières, fabriquent différentes substances et neutralisent différentes toxines. En outre, elles pourraient aussi avoir une influence sur le reste de la flore en favorisant ou, au contraire, en combattant d'autres bactéries. Bactéroïdes. La famille intestinale la plus connue, bactéroïdes, est aussi celle qui constitue le gros de la masse. Pro de l'assimilation des glucides, les bactéries bactéroïdes ont en outre à leur disposition toute une batterie de plans de construction génétique avec lesquels elles peuvent, si nécessaire, fabriquer n'importe quelle enzyme assimilatrice. Que nous dégustions un steak, savourions une salade ou soyons trop ivres pour ne pas remarquer que nous mâchouillons une natte en raffia, nos amis bactéroïdes savent tout de suite de quelle enzyme elles ont besoin. Vienne qui voudra, elles sont équipées pour. Cette capacité à fabriquer un maximum d'énergie à partir de tout ce qui se présente et à nous le transmettre n'est pas toujours bien vue. Elles ont ainsi été suspectées de nous faire prendre plus facilement du poids que d'autres. Il est vrai que les bactéries bactéroïdes apprécient la viande et les acides gras saturés. Elles sont plus fréquentes dans les intestins des amateurs de charcutaille et autres mets carnés. La question, cependant, est de savoir si elles sont là parce qu'il y a de la graisse ou si la graisse est là parce qu'il y a des bactéries bactéroïdes. Et qui, de l'œuf ou de la poule, était là en premier? Nous n'avons pas la réponse. Si vous logez des bactéries bactéroïdes, vous hébergez aussi sûrement leurs collègues parabactéroïdes. Elles aussi sont très habiles quand il s'agit de nous fournir le plus de calories possible. Ce premier entérotype a pour autre signe distinctif de produire une très grande quantité de biotine, également connue en France sous le nom de vitamine B8. Dans les pays anglo-saxons, on parle plutôt de vitamine B7, alors qu'à l'origine, on l'a désignée sous le nom de vitamine H. Pour mettre de l'ordre dans tout cela, l'Union internationale de chimie pure et appliquée a décidé qu'on parlerait dorénavant de biotine. La biotine neutralise en se liant à elle une substance qui se trouve dans le blanc d'œuf cru, l'avidine. Quand on a trop peu de biotine, c'est parce qu'elle est occupée à neutraliser l'avidine. Si on consomme trop de blanc d'œuf cru, on risque une carence en biotine, qui peut à son tour être à l'origine d'une maladie de peau. CQFD. Un apport de biotine peut guérir la maladie de peau induite par une consommation excessive de blanc d'œuf cru. Je me demande qui a un jour pu manger tant d'œufs crus qu'on puisse identifier ce rapport de cause à effet. Il est plus facile de répondre à cette autre question. Qui pourrait, à l'avenir, ingérer assez d'avidine pour mettre ses réserves de biotine à sec? Je vous le donne en mille. Des cochons qui se seraient égarés dans un champ de maïs transgénique. Pour renforcer les défenses du maïs face aux nuisibles, on a en effet introduit des gènes qui lui permettent de fabriquer de l'avidine. Quand les nuisibles, ou de naïfs cochons, consomment ce maïs, ils s'intoxiquent. Dès lors qu'on cuit le maïs, il redevient propre à la consommation, de la même manière que l'avidine des œufs durs ne pose plus de problème. On sait que nos microbes intestinaux sont capables de fabriquer de la biotine, tout simplement parce que certaines personnes en éliminent plus qu'elles n'en ingèrent. Comme aucune cellule humaine n'est en mesure d'en produire, il ne reste plus sur la liste des fabricants secrets possibles que nos bactéries. La biotine ne nous sert pas seulement à avoir une peau rayonnante, des cheveux brillants et des ongles renforcés, comme le vendent certains emballages de comprimés vendus en parapharmacie. La biotine intervient aussi dans des processus